Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux revenir sur la situation de la deuxième vague de la pandémie. On le sait, on a eu une deuxième vague qui a commencé en septembre, surtout, et on a atteint assez rapidement là, 1 000 cas à peu près par jour. On a mis en place des mesures dans les zones rouges. On a réussi pendant un certain temps à stabiliser autour de 1 000. Même il y a des journées, on était en bas de 1 000. Donc, on avait vraiment l'espoir que ça allait continuer de descendre. Malheureusement, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à peu près à 1 300 cas par jour. Puis là, hier, aujourd'hui, tout près de 1 500 cas. Évidemment, comme on l'a déjà expliqué, il y a comme trois étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a les décès. Si on regarde les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Le 1er novembre, on était rendu à 499. Puis aujourd'hui, on est rendu à 737. Donc, on peut penser qu'avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. On vous l'a déjà dit, la situation dans certains hôpitaux est fragile. On atteint presque la limite de ce qu'on est capable de faire. Donc, la capacité n'est pas infinie. Puis évidemment, là où on a le plus grand défi dans les hôpitaux, c'est le personnel. Les infirmières auxiliaires, on aura beau rendre le nombre de lits qu'on a besoin, l'augmenter un peu partout, il reste qu'on n'a pas un personnel là qui est à l'infini. Donc, en plus, la pandémie est là depuis 9 mois. Donc, on a du personnel qui est fatigué, je dirais même très fatigué. On est même rendu à 6 600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. 6 600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même beaucoup. Quand on regarde les décès, bien, on a eu à peu près la même progression. Le 1er octobre, on avait 9 décès en moyenne par jour. 1er novembre, on était rendu à 20 décès par jour. Puis là, bien, aujourd'hui, on a 30 décès. Il faut relativiser, là, c'est 80 % moins que ce qu'on avait au moment du pic de la première vague. Là. Puis c'est surtout, il y a une baisse d'à peu près 80 % même dans les CHSLD, c'est 90 % de baisse des décès. Mais il faut tout ce qu'on est que 30 décès, c'est 30 personnes qu'on a perdues. Là. C'est quand même grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, on a continué de battre des records. D'abord, dans le monde, 635 000 nouveaux cas, 12 300 nouveaux décès. Aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas, 2 800 nouveaux décès. Ça, si on fait une règle de trois, là, toute proportion gardée, c'est plus du double de ce qu'on vit ici au Québec. Donc, quand même, le bon côté des choses, c'est que les efforts qu'on a faits ici au Québec nous ont permis de ne pas aller voir une augmentation aussi exponentielle que ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc, là-dessus, moi, je veux remercier les Québécois. Vous dire, vos efforts ont quand même donné des résultats. Donc, quand on regarde la situation, bien, on est obligé de se rendre à l'évidence. C'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël. C'est pas réaliste. Et, je le répète, on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec, qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, avec les conséquences possibles qu'on connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne seule. Donc, si on pense à sa mère, à son grand-père, les Québécois ont le droit d'aller visiter seul. Donc, il faut que le visiteur soit seul ou la visiteuse. Ils ont le droit d'aller voir. Puis même, j'encourage, je demande à tous les Québécois d'aller visiter des personnes qui sont seules. C'est dur, la pandémie. C'est encore plus dur dans le temps des fêtes d'être seul. Donc, allez une personne à la fois visiter les personnes seules. Évidemment, faites attention. Ça veut dire quoi? Bien, portez un masque, restez à 2 mètres, puis idéalement, restez pas trop longtemps. Je veux aussi préciser que la décision, aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas une demande de la santé publique. C'est nous, hier soir, qui avons pris cette décision en se disant faut être réaliste, faut protéger notre personnel. Évidemment, étant donné que c'est une mesure qui est plus restrictive, la santé publique est quand même d'accord avec cette proposition-là. Bon. Je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, Québécoises qui doivent être déçus de l'annonce. Des gens qui voulaient voir leur famille, voulaient voir leurs amis. Honnêtement, là, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit, là, c'est que le virus, il est pas mal présent dans toutes les régions du Québec. Il est en forte hausse et il est dangereux. Il y a des conséquences qui sont graves. Bon. L'autre chose que je veux dire, je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui est différente de ce qu'on vous a dit il y a 2 semaines. Je comprends ça, là, et c'est un peu comme ça depuis le début de la pandémie. Les informations évoluent, puis on essaie de s'ajuster en prenant les meilleures décisions. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre une minute pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je ne me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Ce qui est arrivé, j'aurais peut-être dû avoir plus d'expérience. Je vois des journalistes ici. C'est vrai que la question vient souvent dans les entrevues. C'est quoi votre bon coup? C'est quoi votre mauvais coup? J'aurais dû me préparer une réponse pour le mauvais coup. Bon, là, je pourrais vous dire que si c'était à refaire, j'ouvrirais pas la porte à 2 jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. Donc, ça évolue très rapidement. Mais je veux juste vous dire, là, je suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait, là. Comme on disait dans le temps, les plus vieux vont s'en rappeler, comme Réal Giguère, mais me remets en question à peu près à chaque nuit. Je me demande, est-ce que j'ai pris conscience avec la santé publique, avec les gens qui sont autour de moi, là, c'est pas une science exacte, puis je veux rassurer tout le monde, là, je considère pas que je suis parfait, là, loin de là. Mon épouse voudrait vous en ajouter là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. Il faut essayer de prendre le bon côté des choses. on n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, quand on a une couple d'années de plus, ça veut dire qu'on pourra faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas, lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, s'appeler au téléphone. Ça va être un Noël tranquille et je pense que c'est important de le garder comme ça. Pour ce qui est des demandes que j'avais faites il y a deux semaines aux entreprises et aux écoles, de dire bien, une semaine avant, une semaine après Noël, donc du 17 décembre au 4 janvier, est-ce que c'est possible d'avoir moins d'activités, du télétravail, de l'enseignement à distance? On va garder ces mesures-là. Je pense que l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier dans le meilleur état possible, donc de tout faire pour casser la vague. Donc, on ne changera pas ces mesures-là. En terminant, je veux dire un mot sur un travail exceptionnel qui a été fait par des représentants de tous les partis politiques sur une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Bon, c'est une idée qui avait été portée depuis plusieurs années par Lise Lavallée, la députée de Repentigny. Lise est allée sur la commission Laurent, on l'a remplacée par Yann Lafrenière, qui, quand il est devenu ministre, on l'a remplacée par Lucie Lecour. Mais il y avait des représentants, là, puis vous avez peut-être entendu les discours de tout le monde ce matin. Moi, je trouvais ça très touchant parce que c'est un sujet où les gens ont travaillé de façon non partisane, de façon constructive. Et puis maintenant, bien, ça va être le rôle de Geneviève Guilbeault de mettre en application les recommandations de cette commission. Donc, je veux assurer tous ceux qui ont participé à cette commission-là, ça ne sera pas tabletté, il va y avoir des actions, puis c'est Geneviève Guilbeault qui va être en charge de ça. Par ailleurs, il va y avoir aussi cet après-midi, vous vous rappellerez, j'avais demandé à Isabelle Charest de mettre en place un certain nombre d'actions pour protéger les femmes qui sont violentées. Donc, cet après-midi, Isabelle avec Geneviève vont faire une annonce importante là, de mesures qu'on va mettre en place. Donc, je termine en revenant sur la pandémie. Je prends une image de Christian qui m'a suggéré. C'est comme un marathon. Hein, vous savez, ceux qui ont déjà essayé le marathon, c'est pas les premiers kilomètres qui sont difficiles, c'est les derniers kilomètres. Puis là, bien, ça fait 9 mois que les Québécois font des efforts, mais les plus difficiles, ça va être les 3-4 prochains mois. Donc, il faut continuer les efforts, pas se décourager, se dire que le vaccin s'en vient, puis on veut être le plus possible à la ligne d'arrivée. Donc, soyons prudents, puis prenons soin les uns des autres. Merci.
Oh là! Bon, ben ça s'est confirmé, ma chère Valérie, ça s'est confirmé. Donc, en zone rouge, là, il n'y a plus de rassemblement à Noël.
Ben, j'ai hâte de voir les questions que les journalistes vont poser. Donc, on parle des zones rouges, mais qu'en est-il des zones oranges? Je pense à la région de Saint-Sauveur, qui est tout près de Montréal, où les restaurants sont bondés les week-ends.
Oui, moi, j'ai l'impression, là, puis là, je m'avance, puis j'espère que la question va être posée par les journalistes. J'ai l'impression que si tu n'es pas en zone rouge, tu vas avoir droit aux deux rassemblements. Ça me semblerait logique. Mm-hmm. Mais attendons, OK? Partons pas en peur, là. Je veux pas que les gens qui m'écoutent dans les Hautes-Laurentides là, soient déçus. Attendez que le PM vous le dise, là. Mm-hmm. Mais logiquement, il a pris la peine de dire « c'est les zones rouges ». Je vous annonce que les rassemblements dans les zones rouges vont être interdits. On peut comprendre que si t'es pas en zone rouge, en tout cas, tu vas avoir plus de latitude.
Ouais.
Bon, verra si ce sera deux rassemblements. Là, il va le préciser, je l'espère bien. Et puis, on sentait son émotion. Hein? Puis moi, honnêtement, là, pour avoir fait de la politique, Valérie, là, puis en passant, Nathalie Normando va être avec moi dans la troisième heure, là, parce que Nathalie va prendre le microphone pendant les fêtes. C'est elle qui va me remplacer à l'animation pendant 3 semaines. Et puis, elle a fait de la politique, elle aussi, Nathalie. Puis j'ai bien hâte de lui poser cette question-là. Moi, j'ai senti beaucoup d'émotion chez le PM, puis je me suis identifié à cette émotion-là. Mmh. Parce que le gars, il a tout fait pour essayer de préserver les congés de Noël, puis il n'y arrive pas.
Non.
Il n'y arrive pas, il n'a juste pas été capable.
Non, puis quand on regarde les chiffres aussi, les chiffres qu'il nous a donnés, quand on regarde depuis le 1er octobre, à quel point, oui, les cas ont augmenté, les hospitalisations aussi, les décès, on comprend la décision d'aujourd'hui.
Oui. Alors, je veux juste vous dire, là, parce que ça vient tout juste de m'être apporté, là, mais le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, eux autres sont encore en zone orange. La Côte-Nord sont en zone jaune. L'Abitibi-Témiscamingue sont en jaune. Les Hautes-Laurentides, on l'a dit, sont encore orange. Fait qu'eux autres, il leur arrive quoi, là? Je pense qu'on devrait avoir, j'ose espérer que d'ici 13h30, on devrait avoir réponse à ces questions-là. Ça me semble pas mal fondamental. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Alors, oui, l'appel, ça, c'est bien important. Une personne seule, on peut aller la visiter. Période des questions.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur national de la Santé publique, Monsieur Legault, c'est une décision difficile que vous venez de prendre aujourd'hui, mais le plus grand danger, c'est comment vous allez faire pour rentrer la pâte à dents dans le tube, parce que les gens vont se rassembler quand même.
Mais moi, je fais confiance au sens des responsabilités de la grande, grande, grande majorité des Québécois. Comme je le disais tantôt, je pense pas qu'il y a personne au Québec qui a le goût d'avoir dans sa tête pendant tout le reste de sa vie qui a infecté quelqu'un de sa famille, un de ses amis, et puis avec les conséquences possibles aussi graves que cette personne pourrait mourir. Donc, moi, je fais confiance au sens des responsabilités des Québécois.
Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises? Est-ce que vous les allez renforcer? Est-ce que vous demandez aux Québécois? Parce que, évidemment, tout ça aura une conséquence sur le réseau de la santé, vous l'avez dit, là. Il y a des médecins qui le disent depuis des années, des semaines, que le réseau est à bout de souffle. Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez? Est-ce qu'il y aura des amendes qui seront émises pour ceux qui tiendront des rassemblements quand même?
Absolument. Mais je dois compter d'abord sur le sens des responsabilités des Québécois. Pas avoir un policier dans chaque maison, mais il y aura effectivement des amendes qui vont pouvoir être données. Puis on est en discussion avec les corps policiers pour voir comment on peut y travailler pendant le temps des fêtes.
Véronique Prince, Radio-Canada.
Quoi? Lorsque vous avez annoncé que les 4 jours étaient permis là, pour des rassemblements, vous aviez dit « je veux un plan qui est mur à mur, que ce soit pas compliqué », donc c'était pour tout le Québec. Là, si je me trompe pas, je vous ai entendu dire que c'était seulement en zone rouge que les rassemblements sont annulés, donc en zone orange, les gens peuvent continuer de le faire?
Bon, quand j'ai annoncé les mesures il y a 2 semaines, ce qu'on a dit, c'est la semaine où on demandait aux gens de faire attention avant et après Noël, ça s'appliquait à la grandeur du Québec. Quand on regarde les rassemblements actuellement, bon, puis il n'y en a pas beaucoup, là, mais les gens qui sont dans les zones jaunes ont le droit déjà à 10 personnes, puis les gens qui sont dans les zones oranges ont déjà le droit à 6 personnes. Donc ça, c'est pas changé. Mais pour ce qui est du reste, là, bien, pour ce qui est des zones rouges, parce que dans le fond, là, à part le nord du Québec, incluant l'Abitibi-Témiscamingue, puis le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis quelques sous-régions dans les Laurentides et l'Outaouais, tout le monde est en zone rouge. Là. Donc, la grande majorité des Québécois sont en zone rouge, mais ceux qui sont en zone jaune ou orange peuvent continuer à avoir des petits rassemblements et ben, les restaurants continuent d'être ouverts dans ces zones-là.
Vous aviez dit aussi, je pense que c'est M. Dubé qui avait dit ça, que cette semaine, on aurait des directives concernant les résidences privées pour aînés puis les CHSLD pour que ces gens-là puissent quand même avoir des visites dans le temps des fêtes. Est-ce qu'on comprend que finalement, on va garder les mêmes mesures concernant les proches aidants puis il n'y aura pas davantage de visites ou de permissions pour le temps
Exactement.
Des fêtes?
Exactement. Et c'est pour ça que c'est un des éléments qui nous a fait accélérer notre décision parce que on connaît tous la situation en ce moment dans les CHSLD et les RPA qui est fragile. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas émettre des directives pour le temps des fêtes qui sera à contrario avec ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui.
Donc ça ne change pas. Il
n'y
a pas de visite.
Il n'y aura pas de visite. On va être dans le même scénario qu'on est en zone rouge en ce moment.
Nous poursuivons avec Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Donc, si je comprends bien, il n'y aura pas de mesures alternatives. Vous ne ferez pas, à part les rassemblements, en fait, une personne seule peut recevoir une autre personne. C'est tout, là. Il n'y a aucun rassemblement qui est permis, qui va être autorisé et ça va être surveillé de façon, ça va être bien encadré, c'est ça?
Oui,
c'est...
absolument, vous avez bien compris.
Bon, alors, comment vous allez faire pour vous assurer que les Québécois ne fassent pas ce que vous voulez pas qu'ils fassent, dans le fond? M. Laforêt en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui, une fois que vous avez semé la graine, là, que vous avez dit aux gens, vous pouvez vous rassembler, puis tout ça, et que vous enlevez le nanan au bout de la ligne, comment vous allez vous assurer que les gens ne le feront pas? Vous dites, on ne va pas mettre un policier en arrière de chaque personne, mais comment vous pouvez vous assurer que ça ne se fera pas?
Bon. D'abord, je pense que, bon, sans le vouloir, on a fait comme une annonce qui est progressive. Les gens ont compris que ce n'était pas une bonne idée de se réunir au jour de l'an. Les gens ont compris que c'était important, avant de rencontrer une autre personne, de prendre ses précautions dans la semaine avant la rencontre. Puis là, on dit, bien, pour Noël, ça va être comme pour le jour de l'an. D'ailleurs, en passant, c'est à peu près ça qu'on a dans toutes les provinces canadiennes. Donc, on n'est pas différent des autres provinces. Maintenant, je pense que les gens, quand je voyais un sondage... Même quand on permettait les deux jours à Noël, je me souviens plus c'était quoi le résultat, là, mais il y avait quand même un pourcentage important des Québécois qui disaient « Moi, je veux pas prendre de chance avec ma mère ou avec une personne qui est vulnérable dans ma famille. » Donc, il y avait déjà un pourcentage des Québécois qui disaient « Même si c'est permis, moi, j'ai pas l'intention de me réunir. » Donc, là, on fait un tour de plus. Puis, je pense que c'est le gros bon sens. Les Québécois, là, ils ont du gros bon sens. Ils veulent pas mettre à risque des gens de leur famille.
Juste parce qu'on vient d'apprendre que André Gagnon, le pianiste, est décédé.
Ah oui?
Avez-vous une réaction?
Bien, écoutez, c'est un grand pianiste, André Gagnon, qui a des compositions là, qu'on connaît tous, les Québécois. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui a rendu son art aussi accessible. Donc, ben, je l'apprends. Là. C'est une perte importante. Là. Je suis triste d'apprendre ça. Quel âge avait-il, M. Lacroix?
Écoutez,
il peut être très vieux.
Je peux faire une recherche. Je mets le département
Merci.
De recherche là-dessus.
OK.
Bon, on va vous le dire, l'âge d'André Gagnon dans un instant. Oui, mais non, mais c'était magnifique, là. Neige, notamment. Hein. C'est... Je me trompe pas, hein, c'est ça, Neige. Hein? C'était absolument extraordinaire. Luc, bonjour. Il avait 84 ans, me dit-on. Bon, Luc, écoute...
Il était très malade depuis longtemps, il faut le savoir.
Très bien. Merci de nous le préciser. Dis-nous ce que tu penses de ce point de presse.
D'abord, il n'y a pas de surprise. Et je ne parle pas juste du fait que TVA et Radio-Canada l'avaient diffusé. Il n'y a pas de surprise parce qu'on voyait ça venir. Écoute, les chiffres n'arrêtent pas de monter. Ce que j'ai remarqué aussi, et tu l'as souligné, c'est l'émotion de M. Legault, qui jusqu'à maintenant se maîtrise d'une façon assez remarquable. Il s'est bien maîtrisé aujourd'hui aussi, là, mais je pense que ça y faisait profondément quelque chose que d'annoncer cette nouvelle-là.
Oui.
Et je le comprends. Et d'ailleurs, ça me permet, parce que la question a été, ou lui-même l'a soulevé, cette entrevue donnée au magazine Actualité où il dit qu'il n'a pas fait d'erreur. Je trouve que l'opposition a été un peu rapide à sauter là-dessus pour la raison suivante. Je l'ai lu, cette entrevue-là, avant que la controverse commence.
Oui.
Ça m'avait pas sauté au visage comme quelqu'un qui était prétentieux ou arrogant.
Citons-le, là, OK? La question que pose Alec Castonguay, c'est « Avez-vous fait une erreur, quelque chose que vous aimeriez faire différemment? » Et il a répondu « Non, je n'en vois pas. »
Bon.
Il n'a pas
Alors,
dit...
Il vient dire aujourd'hui, écoutez, j'ai fait une erreur. Il a quasiment dit le mot amateur, là, j'ai fait une erreur. Je suis pas un gars comme ça. C'est pas vrai que je pense que je fais pas d'erreur. Puis en plus, c'est là que je l'ai senti le plus ému, c'est quand il a dit « j'y pense toutes les nuits ».
Oui.
Puis mon épouse pourrait vous en dire davantage là-dessus. Alors là-dessus, là, on est en décembre, moi j'en ai fait de la gestion de crise, Bernard, jamais de cette ampleur-là, il n'y en a jamais eu de cette ampleur-là. Mais vivre 8, 9, 10 mois comme M. Legault vit, là, ça vaut juste ça, là, un trophée, une médaille, de l'admiration, du respect. Écoute, vraiment, cet homme s'est conduit avec un sang-froid, une logique, une solidité qu'il faut absolument souligner. Là. On oublie toute autre considération politique, d'ordre partisan et tout ça. La réalité, c'est que Legault a été extrêmement solide, et je reprends ce que Lucien Bouchard avait dit au mois d'avril, une chance qu'on l'a. Je ne savais pas qu'il allait être aussi bon que ça. Je le regarde aller, je regarde le sang-froid dont il fait preuve, la solidité, tout en ayant cette empathie avec le public, avec les gens. Et vraiment, il a toute mon admiration et il devrait avoir toute notre admiration pour sa gestion de cette crise.
Je seconde ce que tu viens de dire.
Par ailleurs, je me demande, tu vois, immédiatement quand il a fait cette annonce, là, mes filles ont commencé à me texter, là, ça rentrait, il y a nul Noël, qu'est-ce qu'il prend, patati, patata. On va s'en reparler.
Oui, on va s'en reparler parce qu'on va prendre des appels après la pause. Luc, et je reçois déjà évidemment énormément de commentaires au 98985. Texto et par courriel à Drainville à commercial985fm.ca. Vous pouvez continuer à le faire là, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais tu allais dire et conclure?
J'allais conclure en citant M. Legault qui dit qu'il citait Christian Dubé. Ça donne une très bonne image. C'est comme un marathon. Ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus difficiles. Il faisait évidemment référence au fait que tant qu'on n'aura pas été vacciné, la crise va continuer.
Voilà. Très bien, Luc. Merci. On va s'en aller à la pause parce que les lignes sont déjà pleines. Et on se reparle, Luc, à 14 heures, évidemment, pour ton segment COVID et bien d'autres choses encore. OK. 790-9850, je le rajoute pas là parce que vous êtes déjà nombreux à vouloir avoir les lignes. Qu'est-ce que tu veux? Ça nous touche tous, ce qui vient d'arriver, là. Et puis, on va essayer de décanter ça tranquillement, pas vite, là. Puis, on va se parler.